Laudetur Jesus Christus.
Les chrétiens appelés à faire preuve de toujours plus de solidarité envers le peuple ukrainien, appel lancé par le secrétaire d'État du Saint-Siège à la veille du 1000e jour de l'invasion russe de l'Ukraine. Nous entendrons dans ce journal le nonce apostolique de Kiev. Il revient sur le rôle indispensable des aumôniers militaires, source d'espérance sur le front. L'UNESCO inscrit 34 sites du patrimoine libanais sous protection renforcée. Les lieux culturels sont eux aussi menacés par les frappes israéliennes. C'est le cas également en Terre Sainte. Nous reviendrons sur les enjeux mémoriels. À New Delhi, les autorités accusées d'inaction face à la pollution record, 60 fois supérieure aux normes de l'OMS. Les précisions de notre correspondant à suivre.
Radio Vatican, le journal, Alexandra Sirgan.
Bonsoir à tous. Nous ne pouvons nous rendre à l'inévitabilité de la guerre. Les mots du secrétaire d'État du Saint-Siège ce lundi dans une interview accordée aux médias du Vatican. Alors que l'Ukraine s'apprête à entrer dans son 1000e jour de guerre contre la Russie, le cardinal Pietro Parolin a déclaré espérer que ce triste anniversaire provoque un sursaut de responsabilité chez tout le monde et en particulier chez ceux qui peuvent arrêter le carnage en cours. Comment cultiver l'espérance en perspective de paix à l'horizon? Le nonce apostolique à Kiev, Mgr Visvaldas Kulboka, souligne l'importance du rôle des aumôniers militaires, vecteur d'espoir malgré les bombardements incessants.
C'est très important l'action des capellani militaires.
Le travail des aumôniers militaires est très important, car les soldats ne savent souvent pas s'ils seront encore en vie le lendemain. Et la question du sens de la vie se pose avec encore plus d'acuité. J'ai entendu plusieurs histoires de volontaires apportant des médicaments aux soldats qui les entendent souvent dire « Vous êtes comme Jésus pour moi, parce que vous êtes venu de si loin pour m'apporter des médicaments. »
Et cette espérance pour les militaires, est de fondamentale importance.
Je dirais que cette espérance pour les militaires est d'une importance fondamentale, parce qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés. Si nous nous référons aux 1000 jours écoulés depuis le début de la guerre, à grande échelle, nous pouvons constater que la guerre ne diminue pas. Au contraire, en 2023, il y a eu plus de morts qu'en 2022. De même, en 2024, il y a eu plus de morts qu'en 2023. C'est pourquoi il est très important de donner du sens, le sens chrétien face à l'insécurité et à la peur. Je n'oserais pas dire que l'Église a réussi à le faire parfaitement, mais chaque pasteur, chaque croyant essaie de le faire selon ses propres forces.
Des propos recueillis par notre consoeur de la rédaction ukrainienne Svetlana Dukovitch à retrouver sur notre site internet vaticannews.va. Le Kremlin, de son côté, met en garde contre une nouvelle escalade après le feu vert donné à Kiev par Washington à l'utilisation de leurs missiles de longue portée contre la Russie. Autre guerre qui s'éternise, celle au Proche-Orient. Pour la première fois, le pape a évoqué les accusations de génocide à Gaza dans un livre publié demain en Italie, dont des extraits sont parus hier dans le quotidien italien La Stampa. François appelle à une enquête attentive sur la caractérisation du génocide. Le rapport d'un comité de l'ONU doit être présenté aujourd'hui à New York, estimant que les méthodes israéliennes correspondent bien à ces caractéristiques, des conclusions condamnées par les États-Unis et par l'État hébreu. D'un point de vue humanitaire, le chef de l'UNRWA a réaffirmé ce lundi qu'il n'y avait pas de plan B, pas d'alternative à la présence de l'agence onusienne dans les territoires palestiniens occupés, alors que l'interdiction de l'UNRWA par Israël doit entrer en vigueur en janvier prochain. Les frappes israéliennes visent également le patrimoine régional. Réuni en urgence à Paris ce lundi, l'UNESCO a décidé d'inscrire 34 sites du patrimoine au Liban sous protection renforcée, parmi lesquels les villes antiques de Baalbek et de Tyr. Dans la bande de Gaza, plusieurs lieux culturels sont eux aussi menacés. Au cœur de l'été, le monastère Saint-Hilarion de Gaza a d'ailleurs été ajouté à la liste du patrimoine en péril par l'organisation onusienne. Présent dans l'enclave depuis 1999, l'archéologue René Elter est le coordinateur scientifique du programme Intikal, transmission en arabe, pour l'ONG Première Urgence Internationale. Ce programme protège et valorise le patrimoine plurimillénaire gazaoui par des jeunes palestiniens eux-mêmes. Le chercheur nous explique ce soir l'importance de cette protection des pierres aux côtés de l'aide humanitaire.
On pourrait s'imaginer que s'occuper d'archéologie, de bâtiments détruits dans un contexte humanitaire hyper tendu comme celui de Gaza, et surtout comme, on va dire qu'aujourd'hui, on n'est qu'au début justement de cette crise humanitaire à Gaza, parce que même s'il y a un cessez-le-feu demain, tout va être à faire. Le patrimoine et la culture, en fait, font partie intégrante de la structuration citoyenne d'une société, et on ne peut pas le négliger. On ne peut pas le négliger parce que si on se dit, par exemple, je prends le cas du monastère Saint-Hilarion, le monastère Saint-Hilarion n'est pas important, c'est-à-dire que dans 10 ans, on l'aura perdu. C'est-à-dire que la végétation aura envahi les vestiges, les pluies des différents hivers auront ravagé les vestiges, érodé les sols, déchaussé les pavements de mosaïque, et ces sites vont disparaître. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, la mémoire de Gaza va également disparaître. Ces jeunes doivent faire partie justement du noyau de cette société en fait qui va devoir reprendre en charge Gaza et construire positivement en fait une société d'avenir.
Des propos recueillis par Delphine Allaire. Ces guerres en Ukraine et au Proche-Orient à l'ordre du jour du sommet du G20 qui a débuté ce lundi à Rio de Janeiro et auquel participe le secrétaire d'État du Saint-Siège, le président américain Joe Biden a appelé les dirigeants mondiaux à augmenter la pression sur le Hamas pour un cessez-le-feu avec Israël et à soutenir la souveraineté de l'Ukraine. Également à retenir des premières heures de ce sommet, le lancement de l'Alliance globale contre la faim et la pauvreté par le président brésilien Lula. Avec 81 pays signataires, ce projet vise à dégager des moyens financiers pour lutter contre la faim dans le monde. Le financement, sujet au cœur des désaccords de la COP29 en cours à Bakou. Les pays membres de l'accord de Paris sur le climat ont jusqu'à vendredi pour trouver comment financer le fonds d'aide pour les pays en développement. Arrêtons le théâtre et passons aux choses sérieuses, a déclaré Simone Stale, secrétaire exécutive de l'ONU Climat, ce lundi. Pendant ce temps-là, la capitale indienne a, elle, du mal à respirer. New Delhi est devenue aujourd'hui la ville la plus polluée du monde. Chaque hiver, la baisse des températures maintient dans l'air les particules fines émises par les véhicules et les chantiers. Mais face à ce phénomène annuel, les autorités sont accusées d'inaction. À New Delhi, Emmanuel Derville.
Depuis 2 semaines, une pollution de l'air dantesque s'est abattue sur le nord de l'Inde et l'est du Pakistan. New Delhi est particulièrement touchée avec des niveaux de particules fines 60 fois supérieurs au seuil de l'OMS ce matin. Le brouillard est épais, l'air irrespirable, avec cette sensation d'avoir fumé 20 cigarettes d'un coup. Les yeux brûlent et la visibilité était quasi nulle aujourd'hui. Dans cette atmosphère apocalyptique, l'apathie du gouvernement indien et de la population est frappante. Il n'y a eu aucune déclaration du Premier ministre, ni du ministre de la Santé, ni de celui de l'Environnement face à cette crise récurrente. Dans la rue, les habitants ne portent pas de masque. Le Pakistan a proposé une réunion bilatérale pour tenter de trouver des solutions conjointes, mais New Delhi n'a pas répondu. La relation entre les deux pays est exécrable alors que les attaques de djihadistes venus du Pakistan se multiplient au Cachemire indien depuis cet été. New Delhi, Emmanuel Derville, Radio Vatican.
Lendemain d'élections législatives au Sénégal, le parti au pouvoir se dirige vers une très large majorité absolue au Parlement. Ainsi, le président Faye et le Premier ministre Sonko auront les moyens de mener leurs amples réformes, comme nous l'explique notre correspondant dans la région, Abdoulaye Diédou.
Les Sénégalais étaient hier aux urnes pour élire les 165 députés de la 15e législature. Et c'est dans le calme et la sérénité que les 7 033 850 électeurs inscrits ont voté pour départir les 41 partis et coalitions à liste. Les premières tendances issues des 338 040 électeurs de la diaspora ont largement milité en faveur de Pastef Doussman Sonko, une tendance qui va s'accentuer en fin de soirée avec les dépouillements effectués dans les 16 440 bureaux de vote. Les résultats ont livré une victoire nette et sans bavure du parti au pouvoir, le PASTEF, qui file vers une majorité écrasante à l'Assemblée nationale. Les dernières tendances qui en attestent placent provisoirement le PASTEF en tête avec 119 sièges contre 15 pour la coalition Diamandjiri de l'ancien Premier ministre Amadou Ba, arrivé deuxième à l'élection présidentielle. Après cette victoire sans conteste saluée par plusieurs candidats, le PASTEF Doussman Sonko a à présent les coudées franches pour matérialiser ses promesses électorales, dont la mise en place de la haute cour de justice, la probable mise en accusation du président Macky Sall et l'épineuse question relative à la criminalisation de l'homosexualité. Abdoulaye Diédou, Dakar, Radio Vatican.
Puis Moscou a mis son veto ce lundi à un projet de résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant un arrêt immédiat des hostilités au Soudan. Concrètement, ce vote de la Russie empêche le Conseil de sécurité d'appeler à un cessez-le-feu dans le pays après 19 mois de guerre. C'est ici que s'achève ce journal. Merci pour votre écoute. L'actualité en langue française revient à 8h30, heure de Rome, demain. Belle soirée à toutes et à tous en attendant.